Je vous invite à lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, les versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Et lui dirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Imaginez quelques instants que vous soyez un cadre haut placé dans une multinationale. C'est la fin de l'année et il y a des personnes qui sont venues au bureau d'accueil et qui ont des cadeaux à remettre à des collaborateurs particuliers. Ils sont venus de l'étranger, ce sont des cadeaux de fin d'année. Et vous êtes dans l'excitation à l'idée de recevoir quelque chose de leur part. Vous voyez en fait qu'il y a de bons cadeaux, iPad, iPhone ou une montre. C'est probablement dans ce coffre une montre de luxe. Et l'excitation est telle que vous êtes comme sur le point de recevoir un César. Vous regardez la secrétaire avec l'air de dire « Eh oui, ils sont là pour moi ». Et là, il vous pose la question « Excusez-nous, en fait, on cherche Monsieur François Dupuis ». Collaborateur discret, mais ô combien efficace, c'est un élément clé de notre entreprise et nous voudrions tout simplement le remercier. Quelle serait la réaction, vous, dans la position du cadre haut placé? Ce serait le choc, non? Quoi? C'est pas venu pour moi? Le choc, vous pensiez être le centre de toute l'attention et tout à coup vous devenez le bureau des renseignements? Simplement la personne qui va aider d'autres à trouver François Dupuis. Et le texte que nous venons de lire est un peu dans le même cas de figure. Il y a un roi en place, mais qui s'entend dire qu'il y a un autre roi. Et pour lui, c'est le choc, à cause de la position qu'occupait Hérode, aussi à cause de sa personnalité, on va le voir tout à l'heure. Ça a l'effet d'un séisme, une petite question. Où donc est le roi des Juifs qui devait naître? C'est un séisme pour lui. Pour lui, c'était sûr, il était le roi. Nommé par les Romains en l'an 40 avant Jésus-Christ, désigné roi des Juifs par le Sénat, Hérode, surnommé le Grand, s'était imposé dans la région comme le monarque. Et sur la base de ce texte, on va simplement se poser deux questions. Où rencontrer le roi, dans les versets 1 à 6, et comment réagir face au roi, versets 7 à 12. Une des difficultés avec le texte qu'on vient de lire, c'est qu'il a souffert de sa popularité. On a pas mal parlé de ces mages. Et c'est difficile de faire la part entre ce qui vient de la tradition, du mythe et de ce qui est réel. Et ça vaut la peine de parcourir quelques éléments. Pour ceux qui avaient encore des doutes, il ne s'agit pas des inconnus, Pascal Légitimus, Didier Bourdon et autres, pour ceux qui ont vu les rois mages. Il ne s'agit pas d'eux. Et aussi, rois mages. Est-ce qu'il s'agissait vraiment de rois? Quand on regarde de plus près qui étaient ces mages, on voit deux types de rôles dans ce qu'ils pratiquaient. À la fois un rôle de prêtre, par exemple dans l'Empire perse. Dans le livre Daniel, on voit plutôt des sages qui sont astronomes, astrologues, interprétant les rêves. D'où le mot mage qui va devenir utile pour parler de la magie, des magiciens. Alors, il y avait probablement des prêtres chez les mages, il y avait probablement des astronomes, des astrologues, mais pas des rois. Peut-être les deux, un mélange des deux à certains moments, mais certainement pas des rois. On entend dire généralement qu'ils étaient trois, mais ça aussi, ça ne vient pas du texte. On trouve trois cadeaux, l'or, l'encens, la myrrhe, et on en déduit qu'il y en avait trois, mais rien ne nous dit qu'ils étaient trois. On leur a même donné des noms, Gaspard, Melchior, Balthazar, mais là encore, aucun indice dans le texte. C'est à partir du sixième siècle qu'on commence à les voir nommés. Et dans les crèches Noël, on les représente généralement avec qui? J'ai vu une crèche hier, ils sont en présence de qui? Des bergers. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas venus au même moment, de toute évidence. D'une part, Jésus n'est plus décrit comme un nouveau-né, comme pour les bergers, mais comme un enfant dans le texte. Et ensuite, l'endroit où il réside n'est plus l'étable, il loge dans une maison, au verset 11. Et quant à l'étoile qui permettrait aux mages de trouver cet enfant roi, là encore, un ajout tardif. Non, c'est bel et bien ce que le texte affirme. Et là, peut-être pour certains d'entre nous, c'est pas possible. Des personnes dirigées par une étoile vers un enfant, on nage en plein mythe. Matthieu veut nous en mettre plein la vue avec cette histoire de mage dirigé par une étoile. Avant de taxer le récit de légende fantaisiste, ça vaut la peine de se poser la question dans quel contexte il a écrit cela, dans quelle perspective. D'une part, en dehors des récits bibliques, on trouve effectivement les mages, on l'a dit, en Perse, les Chaldéens ont été très influents pour communiquer l'importance de l'astrologie dans leur perspective. Mais d'autre part, si on accepte cette idée d'un récit inventé, on peut se demander si Matthieu s'y prend de la bonne façon. De tous les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui retracent le ministère et la vie de Jésus, il est celui qui est le plus trempé dans la culture juive. C'est celui de tous qui fait le plus de références aux écrits de l'Ancien Testament, qui le cite le plus, qui fait allusion le plus, près d'une centaine d'allusions. Et ça paraît normal dans un sens, il est juif, bon, c'est vrai Marc, Jean aussi, mais à la différence d'un Luc par exemple. Et pourtant, contre toute attente, ici, au début de son livre, ce sont des non-juifs, des étrangers venus d'Orient, et pour couronner le tout, des mages, qui reconnaissent Jésus comme roi, alors que ceux qui ont les Écritures, les juifs, eux, ne vont pas aller plus loin que d'être troublés. Et ce début du livre, il a de quoi nous choquer si on est conscient de la perspective de Matthieu, de son arrière-plan juif. Écoutez ce qu'un commentateur dit à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, ce sont des Israélites fidèles qui se montrent supérieurs aux magiciens étrangers. Joseph, Moïse, Aaron, Daniel. Mais ici, dans Matthieu, la situation s'est renversée. C'est un choc pour quelqu'un qui est juif et qui lit ce texte. Des non-juifs, des étrangers, pour couronner l'affaire, des mages. Et on pourrait lire pas mal de textes dans l'Ancien Testament qui dénoncent ou ironisent sur le fait de lire les étoiles. Deutéronome 18, Ésaïe 47, Jérémie 10, Daniel, etc. Ici, Matthieu ne fait pas de commentaires, ni positifs, ni négatifs. Il ne fait que constater que ce sont bel et bien des mages qui sont venus. Alors qu'il écrit, probablement justement pour interpeller des juifs. Et la question est la suivante. Si vous vouliez créer à tort un récit qui veut dire que Jésus est l'accomplissement des Écritures, est-ce que vous écririez ce texte-là? Est-ce que vous utiliseriez ces personnes-là pour montrer que Jésus est bel et bien dans la continuité de l'Ancien Testament? Matthieu ici montre les marques plutôt d'authenticité que d'un récit inventé. On en vient à la première question. Où rencontrer le roi, verset 1-6, en sachant que les Écritures jettent un regard ironique ou négatif sur l'astrologie. On peut se demander comment interpréter le fait justement que là, ils suivent une étoile dans leur recherche pour un roi. Est-ce que ça veut finalement nous dire que c'est pas si grave que ça dans la manière de s'approcher de Dieu? Il y a différentes façons de s'y prendre. On a parlé de l'Ancien Testament, mais peut-être que la perspective dans le Nouveau Testament change. Est-ce que c'est le cas? Non. Non, on le voit dans les Actes. C'est toujours décrit négativement, que ce soit Simon le magicien, la magie qui se pratique à Éphèse, la divination à Philippe. Elles sont toutes perçues négativement. Alors si ce n'est pas un changement de perspective, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faut en retirer? N'est-ce pas la souveraineté et la grâce de Dieu qui se révèle à des personnes qui sont loin sur tous les plans? Loin sur un plan théologique, même s'ils ont peut-être entendu parler de Daniel des siècles plus tôt, ils sont loin théologiquement et non pas les Écritures. Loin sur le plan ethnique, non juif, loin sur le plan géographique, venu d'Orient. Et quant aux moyens choisis, même s'il y a bel et bien cette étoile dans le cheminement qui les mène vers cet enfant roi, ils vont, et Matthieu le relate, poser une question. Les premiers mots qu'on entend sortir de leur bouche, c'est « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ils ont des éléments importants, mais l'essentiel, ils doivent encore poser la question « Où est-il ?» Et la question n'est pas secondaire « Où est-il né ?» C'est suite à cette question qu'Hérode rassemble les théologiens du moment, les prêtres. Il se tourne vers les Écritures pour donner une réponse et il a fallu les Écritures pour donner cet élément clé sur le lieu de la naissance de Jésus. Un théologien cite un texte de Michée, au chapitre 5, verset 1, datant du 8e siècle avant Jésus. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour nous celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé. » Au jour d'éternité. La réponse est donnée, Bethléem, la ville d'où David était originaire. Et dans le contexte de ce passage, le prophète Michée annonce la certitude d'un jugement à venir. Mais il mentionne en même temps la venue d'un roi qui, comme un berger, va prendre soin de son peuple comme un troupeau. Un berger qui amènera la paix. Contrairement à ce qu'on pourrait attendre, ce n'est pas dans la ville de Jérusalem, centre névralgique, ou même dans une autre grande ville du bassin méditerranéen. C'est dans la petite ville de Bethléem que ce roi doit naître. Et ce sont les Écritures qui le révèlent. Remarquez aussi la question d'image. Ils disent qu'il est roi dès sa naissance. Ils ne disent pas celui qui doit devenir roi des Juifs, mais le roi des Juifs qui vient de naître. Autrement dit, il ne va pas devenir roi, il est roi dès sa naissance. Et ça va aussi dans la ligne des prophéties de l'Ancien Testament. Il est roi. Où rencontrer le roi? Les mages vont se rendre à Bethléem et grâce à l'étoile, une fois encore, elle va être utile pour s'y rendre. Il a fallu ce moment incontournable des Écritures, mais ils sont par la suite dirigés par cette étoile. Et qu'est-ce qu'on doit en retirer de cet élément, la centralité des Écritures pour connaître le roi, le rencontrer? On peut déjà dire que pour Matthieu, il le relève tout au long de son évangile. Il y a cette expression à quelques variantes près, « Cela arriva afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète ». Et c'est lui qui relèvera que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Il y a cet accomplissement à la personne de Jésus que Matthieu veut relever et souligner. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous à relever? Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais on est tenté, lorsqu'on parle de notre foi, de repenser à certaines expériences du passé qui ont été marquantes, tel ou tel moment dans notre parcours où on a eu une expérience frappante de la présence de Dieu, de sa parole peut-être. Et on serait tenté de finalement décrire notre cheminement par ce genre d'expérience en disant « voilà ce qui me caractérise moi ». Mais il va falloir aller plus loin. Pour chacun d'entre nous, il y aura besoin d'aller plus loin dans cette compréhension des Écritures, dans cette compréhension de qui est ce roi. Il va falloir les Écritures. Comme le dit le début de l'Épître aux Hébreux, Dieu a choisi de se révéler à travers les siècles par des prophètes, mais souverainement, il l'a fait en la personne de son Fils Jésus, dont les apôtres vont rendre témoignage. Ils sont les témoins oculaires qui nous aident à rencontrer le roi. Et le Nouveau Testament, dans son ensemble, nous dit l'importance de sa venue, de sa personne. Les expériences, elles ont une certaine valeur dans notre cheminement. Et il n'est pas faux d'en parler lorsqu'on discute avec quelqu'un. Mais est-ce qu'on va en rester là? Est-ce qu'on va résumer notre vie, notre cheminement spirituel à ces quelques expériences passées? Ou est-ce qu'on va témoigner d'une soif, d'un désir d'aller plus loin dans notre compréhension des Écritures? Et je vous pose la question, quelle va être la place des Écritures dans l'année 2014? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme influence dans votre parcours? Est-ce qu'elle va vous nourrir, alimenter vos pensées? C'est aussi dans la perspective du témoignage, Matthieu l'a mentionné tout à l'heure, ce qui va être distribué à la gare Montparnasse et l'évangile de Luc, parce qu'il parle des récits de la naissance, l'importance dans notre témoignage aussi de diriger les gens vers ces Écritures-là. Dès le départ, Matthieu veut nous dire l'importance de ces Écritures pour rencontrer le roi. On passe ensuite à la deuxième question. Comment réagir face au roi? Et je vois essentiellement trois réactions dans le texte. La première qu'on peut mentionner, c'est la réaction du roi Hérode. Dans la traduction, on s'est imaginé le choc que ça devait représenter pour lui d'entendre qu'un autre roi était né, un autre roi que lui. Il y a un intérêt à regarder de plus près à qui on a affaire, qui est ce roi Hérode. Si Hérode est surnommé le Grand, c'est parce qu'il a, sous bien des aspects, montré qu'il était un bon diplomate, un remarquable administrateur. Il a su sortir de situations délicates, il a été un bâtisseur hors pair, pensez par exemple au temple à Jérusalem qui suscitait l'admiration et même des disciples de Jésus. Mais il n'a pourtant pas été admiré de tous, et une bonne partie dans le peuple juif était contre lui, le voyait négativement, d'une part parce qu'il était étranger à la base, de père édomite, de mère arabe, mais ensuite, parce qu'il a été institué par les Romains, ce n'est pas le roi légitime, il n'est pas de la lignée de David, comme l'est Jésus. Et une chose qui a marqué son règne, c'est qu'il était suspicieux de toute personne qui viendrait remettre en question son règne. Plusieurs membres de sa famille ont été exécutés à cause de cette paranoïa, cette peur. Sa femme, Marianne, et au moins deux de ses fils. Il a fait aussi exécuter plus de la moitié du Sanhédrin, le conseil juif, sans compter d'autres membres de sa famille. L'historien Flavius Joseph prétend qu'à la veille de sa mort, Hérode a voulu ordonner un massacre des docteurs pharisiens, et la citation, pour être sûr que les juifs pleureraient après sa mort. Sympathique comme cadeau de revoir. César Auguste aurait affirmé à son sujet, il vaut mieux être le porc d'Hérode que son fils. Et en sachant cela, comment est-ce qu'on relève sa réaction dans notre texte lorsqu'il entend la nouvelle de la naissance du roi, cette question posée? Eh bien, une fois encore, il complote. Il fait venir secrètement les mages pour leur demander des précisions sur cette étoile et le moment où elle est apparue. Il prétend vouloir à son tour se prosterner devant cet enfant. Et là, on découvre qu'il va se mettre en colère par la suite, lorsque les mages, plutôt que de se rendre vers Hérode, rentrent chez eux par un autre chemin. Et la mention de l'Égypte doit faire un rappel dans notre esprit, si nous connaissons l'Ancien Testament. Ça rappelle quoi? Ça rappelle ce temps où le peuple d'Israël était en Égypte. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Hérode? Il fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Comme Moïse qui a échappé au massacre des enfants hébreux, mâles, ici Jésus va échapper à ce massacre-là. Quelle est donc la réaction d'Hérode vis-à-vis d'un roi? Eh bien, pour lui, c'est la colère, l'indignation, le choc, le désir de s'en débarrasser. Quelle est la deuxième réaction? Eh bien, ce sont les mages qui l'incarnent. Ils vont continuer leur route vers Bethléem, ils se rendent vers cet enfant et leur réaction devant lui, c'est tout simplement de se prosterner. Signe extérieur, se mettre à genoux, signe extérieur d'une réalité intérieure, d'une soumission et d'un honneur qu'ils désirent donner à Jésus. Et tout dit dans les présents qu'ils apportent, qu'ils reconnaissent en lui, celui qui est digne de l'or, de l'encens, la myrrhe, des cadeaux de valeur, des cadeaux d'un roi. Alors ils n'ont certainement pas tout compris. Quelle va être la destinée de cet enfant? Quel genre de vie va-t-il mener? Qu'est-ce qui va caractériser son règne? Mais ils ont suffisamment compris pour réagir de la bonne façon par le fait de se prosterner et de l'adorer. Ils ont beau venir de loin sur un plan théologique, sur un plan ethnique, géographique, ils ont reconnu en Jésus le roi. Il n'est pas précisé combien de temps ils sont restés là, mais la suite du texte nous dit qu'ils ont repris la route. En théorie, ils devaient retourner vers Hérode, mais divinement avertis par un rêve, ils prennent un autre chemin et rentrent chez eux. Le complot qu'avait conçu Hérode devait les utiliser comme source d'information pour retrouver cet enfant. Et n'est-ce pas frappant? Si Hérode a pu faire exécuter des membres de sa famille les plus proches, c'est qu'il est bon dans sa capacité à comploter. Il est fort dans sa manière de s'y prendre. Et là, un enfant lui échappe à cause d'un simple rêve. Un homme puissant et paranoïaque qui n'arrive pas à se débarrasser d'un enfant alors qu'il a su tuer et faire tuer bien d'autres. Deux réactions explicitement mentionnées dans le texte, mais il y a une troisième sur laquelle on pourrait facilement glisser. Une autre, moins visible au premier coup d'œil, c'est la réaction de qui? Des habitants de Jérusalem? N'étaient-ils pas troublés, comme Hérode, troublés avec lui? Tous les théologiens près du moment s'étaient réunis pour trouver l'endroit, le lieu de la naissance. Alors, où sont-ils maintenant? Où y sont tous ces gens qui étaient troublés? Ceux qui ont les Écritures, ceux qui ont pourtant la connaissance d'un Messie qui doit venir, où est-ce qu'ils sont? Ils savaient que c'était à Bethléem, dans la ville de David. Alors, où est-ce qu'ils sont? Suite au départ des mages, rien n'est dit à leur sujet. C'est comme si Matthieu voulait dresser un contraste entre des personnes qui sont venues de loin, sur tous les plans, et des personnes qui sont près, proches, et qui ont les Écritures pour savoir où se trouve le roi, mais qui n'arrivent pas à le rencontrer, qui ne vont pas plus loin que le fait d'être troublés. C'est l'apathie qui semble régner. Est-ce qu'à la manière d'un Hérode, on voit l'autorité de Jésus, sa royauté, comme une menace pour nos décisions, pour notre manière de voir notre vie? Ou est-ce qu'à la manière des mages, on reconnaît en lui quelqu'un qui est digne des plus grands honneurs? Par contraste, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui et dans les jours qui viennent à faire quelque chose seulement pour Jésus? Pas pour soi, pas pour sa satisfaction, pas pour le regard des autres, quelque chose en secret, mais pour Jésus, pour lui, parce qu'il est digne des plus grands honneurs. Ou est-ce qu'à la manière des habitants de Jérusalem, on va réagir par l'apathie? Une étincelle, là où l'autre sursaut, mais après, tout retourne dans la routine. Ce que ce texte met en évidence, c'est qu'on peut avoir les Écritures au bout des doigts et pourtant manquer de rencontrer ce roi, de le reconnaître. Il faut aller plus loin. Et prenez le livre de Matthieu, et c'est avec ça que j'aimerais conclure. Dans la suite, on retrouve, il est quasiment pas mentionné, mais on retrouve vers la fin ce titre « Roi des Juifs ». Et là encore, tous les théologiens du moment sont rassemblés. Les grands prêtres, les spécialistes de la loi. Voici comment Matthieu décrit la scène au moment de la crucifixion de Jésus. Matthieu 27, versets 37 à 41. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qui descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. » Tout est sur un ton ironique, mais les plus grands titres lui sont donnés. Il est le roi des Juifs, il est le roi d'Israël, il est le Fils de Dieu, il est celui qui sauve les autres. Il est le temple, la présence même de Dieu, Emmanuel, qui va être détruit, qui est détruit là, mais qui sera reconstruit dans trois jours, la résurrection est en vue. Et si on reconnaissait en lui le roi, celui qui est digne d'être connu. Et si on reconnaissait la nécessité d'aller plus loin dans notre connaissance de ce roi qui est venu jusqu'à nous pour nous réconcilier avec le Père?